Bonsoir Pierre Ferracci.
Bonsoir.
Vous êtes le président du Paris Football Club, club de Ligue 2, vous êtes le président du groupe Alpha, et vous faites partie des décideurs du sport. C'est pour ça que vous êtes notre invité ce jeudi à quelques jours de la Coupe du Monde de football. Alors la Coupe du Monde de football, évidemment, c'est le sujet numéro un actuellement. Ça débute dimanche au Qatar avec un match entre le Qatar et l'Équateur. Est-ce que vous allez y aller? Vous n'avez pas l'intention de boycotter?
Je n'ai pas l'intention de boycotter, mais mes activités professionnelles m'empêcheront d'y aller. Je suis dans une phase de transition dans le groupe Alpha, puisque j'ai installé depuis 2 ans une directrice générale. Et nous avons une fin d'année extrêmement lourde. Donc, je n'irai pas, mais je trouve que la question du boycott aujourd'hui est mal posée. S'il fallait interdire la Coupe du Monde au Qatar, c'est en 2010 qu'il fallait le faire. Pour ma part, je n'y étais pas favorable, hein, pour diverses raisons qui touchent à la façon de développer le football dans le monde. Il y a tellement d'autres pays qui ont besoin d'une Coupe du Monde pour développer des infrastructures. Je pense que le Qatar, en dehors des problèmes qui sont posés en matière de droits humains et autres, n'était pas la cible privilégiée. Mais aujourd'hui, c'est trop tard et je trouve qu'il y a parfois beaucoup d'hypocrisie du côté des politiques en évoquant des possibilités de boycott. La plupart sont heureusement raisonnables et j'espère que la Coupe du Monde sera belle.
Vous n'êtes pas gêné par cette histoire de boycott ?
Non, je trouve que on n'empêchera pas des manifestations et peut-être que ces manifestations, il faut les gérer tranquillement. Hein. Il y a des problèmes dans ce pays qui heurtent parfois la conscience et parfois même assez lourdement la conscience de nos citoyens, de nos concitoyens. Il y a des pays qui vont visiblement manifester, hein, des pays de l'Europe du Nord qui ont déjà exprimé leur point de vue. On a vu que certaines fédérations aussi essayaient de faire bouger la FIFA. Donc ça, on ne l'évitera pas et c'est sans doute sain. Après, il faut que la fête du football se déroule et que ça soit une belle Coupe du Monde. Mais les problèmes qui sont posés par la façon dont le Qatar est géré, ils surgiront d'une manière ou d'une autre pendant la Coupe du Monde. Il faut simplement que ça n'empêche pas les footballeurs d'exercer leur travail et de représenter dignement leur équipe nationale.
32 équipes sont présentes au Qatar, oui. 32 formations vont essayer de devenir championnes du monde de football, ce qui est quand même important. Vous, ce qui vous intéresse, en fait, c'est le football, pour le moment. Même si vous êtes complètement conscient de tout ce qui se passe au Qatar, notamment concernant les droits de l'homme.
Alors, je prendrai les choses autrement. Je dirais qu'il ne faut pas ignorer les problèmes qui se posent en termes de droits de l'homme. C'est pas seulement pour ces raisons-là que je pense que le choix du Qatar n'était pas un bon choix. On sait très bien que ça s'est joué sur un terrain financier. J'espère que la justice ne mettra pas en évidence que ça s'est joué aussi sur un terrain qui dépasse un petit peu les normes légales. Il y a encore une enquête en cours du parquet national financier. Il faut la laisser aller à son terme. Je crois qu'il y a les Suisses aussi qui continuent à enquêter. Il y a les Américains qui, il y a quelques années, ont déjà mis en évidence quelques aspects du problème qui n'étaient pas très, très raisonnables. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais moi, j'essaie de distinguer les deux. Il faut laisser les footballeurs s'exprimer. Et en même temps, il faut peut-être qu'un certain nombre de sujets soient sur la table. Mais la pratique du boycott aujourd'hui n'est pas la bonne. Si certains voulaient s'exprimer fortement, c'était en 2010 qu'il fallait le faire. Moi, je me rappelle, en tant qu'humble citoyen, que j'avais trouvé totalement anormal que ce pays-là soit choisi. Vous savez, pour le football, soit on choisit des pays qui ont des infrastructures, déjà, pour éviter des coûts un peu exorbitants, surtout par les temps qui courent, soit on choisit des pays qu'on veut aider dans le développement du football et plus largement dans le développement du pays. C'était par exemple le cas en Afrique du Sud. Après la période qu'elle a connue, ça me paraissait légitime. Moi, j'aurais aimé, par exemple, que la prochaine Coupe du Monde, puisque la logique de plusieurs pays maintenant est avancée, se déroule en Algérie, au Maroc, en Tunisie. Ils ont besoin d'infrastructures, ce sont des pays de football. Bon, on a choisi des pays riches, les États-Unis, le Canada, un peu moins le Mexique. Donc il y a des choix qu'il faut faire en prenant en compte les problèmes de la planète, les problèmes de la société. Et très franchement, aller dans un pays aussi petit qui est certes plein d'argent et on le voit sur d'autres terrains, je trouve que ce n'était pas une bonne idée. Bon, maintenant c'est fait, ce n'est pas 12 ans après que les uns et les autres vont se réveiller. Les politiques arrivent parfois un petit peu tard là-dessus. Je parle des politiques qui se manifestent sur le terrain du boycott. Bah, il faut s'exprimer, mais il faut laisser la compétition se dérouler et il faut effectivement que le football trouve sa place.
Alors je sais que votre passion, c'est le football. Vous êtes président du Paris Football Club. Est-ce que vous avez un favori pour cette Coupe du Monde de football ? On parle évidemment de la France qui est la championne du monde sortante. Je sais que vous vous intéressez beaucoup à l'actualité du football mondial en règle générale. Est-ce que vous avez quelque part des équipes qui vous impressionnent, que vous aimez ?
Oh ben disons que bon, la France a un rang de favori et puis j'espère qu'elle le tiendra et qu'elle ira le plus loin possible et peut-être qu'elle gagnera une nouvelle Coupe du Monde. Bon, moi, comme tout bon Corse qui se respecte, je regrette que nos amis italiens ne soient pas là une fois de plus, parce que ça fait deux fois de suite et je trouve qu'une Coupe du Monde sans l'Italie, c'est un peu ce que disait Klinsmann, là, le joueur allemand qui a beaucoup joué à l'Inter de Milan, qui est mon club favori en Italie. La Coupe du Monde sans l'Italie, ça, il manque quelque chose. Après, à côté de la France, je crois que l'Argentine et le Brésil seront là. Messi pour sa dernière Coupe du Monde, le Brésil qui a toujours de toute façon une position de favori dès le départ. Et puis je mettrai un petit ticket sur les Pays-Bas. Je ne sais pas pourquoi, je trouve que les Pays-Bas ont une équipe solide et que sans trop faire de bruit,
et le Danemark,
ils peuvent être présents. Bon, le Danemark, ça, c'est souvent la surprise. Bon, ça ne peut pas l'être chaque fois, mais il faut s'en méfier. Bon, en plus, eux, entre parenthèses, vont sans doute se manifester sur un terrain oui. autre que le football. Donc oui, il peut y avoir une surprise. Pardon, il y aura sûrement une surprise. Alors après, comme tout le monde, moi je rêverais d'une surprise venue d'Afrique. Le Sénégal, par exemple. Il y a Moustapha Nam qui est passé par le Paris FC, qui est parti à Chypre il y a quelques temps et qu'on aime beaucoup. Bon, après, c'est toujours un peu compliqué pour les pays africains, mais un beau jour, il faudra bien qu'il y en ait un qui perce, quoi. Peut-être que ça sera cette année.
Alors, dans cette séquence, les décideurs du sport... Je rappelle que vous êtes le président du Paris Football Club,
oui.
que vous avez monté de toutes pièces ce nouveau club, un peu à la mode, et tout le monde rêve, même si vous êtes toujours en Ligue 2, qu'un jour ce club, comme vous d'ailleurs, monte en Ligue 1, pour une raison qui est, bon, je reconnais, un peu récurrente, le fameux derby Paris Saint-Germain contre le Paris Football Club, et deux clubs à Paris, c'est pas un truc invraisemblable. Dans toutes les grandes capitales européennes, il y en a deux, il y en a voire trois, quelquefois quatre, regardez Londres. Pourquoi on n'arrive pas à être en Ligue 1 en ce qui concerne le Paris FC? Pourquoi il n'y a pas un deuxième club? Il y a eu une période, et vous le savez aussi bien que moi, qu'il y a eu quatre clubs de Ligue 1 dans les années 40-50 à Paris.
Mais parce
il y a un truc qui m'échappe.
Parce que c'est beaucoup plus compliqué à Paris que partout ailleurs.
Et pourquoi?
D'abord, regardez, dans nos pays voisins, en Italie, en Espagne, en Angleterre, il n'y a pas que dans la capitale qu'il y a plusieurs clubs. Il y a dans les grandes villes, à Turin, à Milan, à Vérone, il y avait deux clubs en Serie A. En Espagne, il y a Barcelone, il y a Séville. Je ne parle même pas de l'Angleterre. L'Angleterre, à Manchester ou à Liverpool, il y a aussi deux clubs. À Londres, n'en parlons pas. Pourquoi en France, il n'y a pas deux clubs à Paris? Mais je dirais à Marseille et à Lyon, pour prendre deux grandes villes du football aussi. D'abord parce que je crois que le football français est encore en retard sur le plan économique par rapport à certains pays, et que bâtir un club dans une grande ville avec des moyens, ce n'est pas aussi simple que ça. Mais il y a le problème spécifique de Paris. Moi, je l'ai toujours dit, à Paris, c'est plus compliqué qu'ailleurs. Pourquoi? Un, parce qu'il y a un club, tant mieux pour lui, qui écrase tout depuis 40 ans, je dirais... encore plus depuis 10 ans, depuis que le Qatar en a pris le contrôle, avec des moyens illimités. Le PSG a sans doute aujourd'hui le plus gros budget du monde, avec deux ou trois autres, mais enfin, je crois qu'il tient un peu le pompon. Et puis ensuite, à côté de ça, vous avez un football francilien qui est très éclaté, qui est très divisé. Il y a des clubs partout, en National, en National 2. Moi, je rappelle toujours qu'il y a quelques années, on était en Coupe de France, on jouait contre Houille, qui était en division d'honneur à l'époque, l'équivalent de la R1. Il y avait 1500 personnes pour soutenir Houille, hein, pas pour soutenir le Paris FC. Sans doute les mêmes qui vont ensuite au Parc des Princes ou qui se mettent devant leur télévision parce que ça devient cher le football aujourd'hui et c'est dommage pour les classes populaires. Mais donc, il y a ce football francilien très éclaté plus un grand club qui écrase tout et qui est populaire aujourd'hui, hein, il faut le reconnaître, avec un modèle suffisamment puissant pour attirer à la fois Mbappé, Messi et Neymar, mais ça rend compliqué la construction d'un autre club à Paris. Mais on va y arriver. Alors, vous m'interrogez au moment où on vient de prendre une claque à domicile samedi contre Metz. On a joué trois fois les barrages en quatre ans ces dernières années. Chaque fois, on a bien démarré, on a plutôt mal terminé. J'espère que cette année, on démarre un peu moins bien, même beaucoup moins bien que prévu, et qu'on va terminer beaucoup mieux. Mais on va y arriver. C'est long. Vous savez, Auxerre a mis 10 ans pour remonter en Ligue 1. Il y en a qui ne sont pas encore remontés, des équipes comme le Havre, comme Nancy, malheureusement qui est en 3e division aujourd'hui. Donc on va y arriver parce qu'on a pris les choses par le bon bout, on a construit des fondations, on est revenu sur les fondamentaux de la formation. Il y a plein de jeunes dans les équipes de France de 16 à 20 ans aujourd'hui. On a bâti aussi une section féminine qui tient la route, juste derrière l'OL et le PSG. On est aujourd'hui chez nous à Orly, dans un centre de formation, un centre d'entraînement, un siège social qui sont réunis au même endroit. Donc, on bâtit les fondations, mais c'est compliqué. Puis après, il y a les aléas du sport. Vous savez, cette année, le Paris FC a le quatrième budget derrière les trois clubs qui descendent de Ligue 1, dont les budgets sont bien entendu pas comparables à ceux de Ligue 2. Donc, on s'est donné les moyens. Après, je m'interroge en tant que président et en tant qu'actionnaire, avec les autres actionnaires, sur l'utilisation de ces moyens, puisque pour l'instant, on est dans le ventre mou du classement. On n'est pas très loin de la tête, mais enfin, il y a quand même quelques points qui nous séparent. Donc, le fait de bien travailler n'empêche pas qu'on est dans une compétition difficile. Mais je suis persuadé que dans les années qui viennent, et le plus vite possible, j'y crois même encore cette année, même si ça va être compliqué, il y aura deux clubs à Paris en Ligue 1. Vous savez, il y a, je crois, 12 à 13% des licenciés de la fédération qui sont en région parisienne. Donc, 40 clubs de Ligue 1 et Ligue 2, 12 à 13%, il devrait y avoir 4-5 clubs en Ligue 1 Ligue 2. Aujourd'hui, il n'y en a que deux. Il y a peu de temps encore, il y avait le Red Star, Créteil et nous en Ligue 2. Entre parenthèses, on faisait les trois plus faibles affluences de la Ligue 2. Là aussi, on a l'impression qu'à Paris, on n'existe qu'en Ligue 1. En Ligue 2, on commence à exister, on commence à être visible. En National, on ne voit pas du tout. Donc c'est dur aussi pour faire un club, attirer des spectateurs quand vous avez le PSG à côté, qui a des étoiles sur le terrain qui sont non seulement brillantes, mais aussi très efficaces. Donc c'est un combat difficile, mais on va le gagner. Enfin, un combat pacifique, hein, parce qu'ils y sont pour rien si on n'y est pas. Mais on va le bâtir. Moi, j'ai construit une structure aujourd'hui avec d'autres, avec de nouveaux actionnaires qui m'ont rejoint, avec une équipe de direction qui est dynamique, avec un projet sportif qui est clair, s'appuyer sur la formation. Bah, Ibrahima Konaté et Axel Disasi, qui sont dans les 26, sont passés par le Paris FC. Celui qui porte un peu aujourd'hui Lens, qui fait un parcours exemplaire, qui est pour moi aussi un modèle, la construction du projet. J'aime beaucoup le président qu'on vient d'élire d'ailleurs comme administrateur à l'AFP. Il y a un joueur que j'aime beaucoup là-bas qui s'appelle Seko Fofana, qui est aussi passé par le Paris FC, qui est la figure de proue du projet Lensois aujourd'hui, qui est un très 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 bon joueur. Donc vous voyez, on construit, on bâtit. Bon, ben un jour, l'équipe première va en profiter et puis on sera en Ligue 1. Mais c'est difficile à Paris. Mais encore une fois, posons-nous la question. Pourquoi pas Lyon? Pourquoi pas Marseille? Après, il y a le football des territoires auquel je tiens aussi. Hein. Ça permet aussi à des équipes, des villes moyennes, d'avoir des équipes en Ligue 1 et en Ligue 2. Mais à Paris, c'est compliqué. Et ça fait 50 ans que tout le monde en parle, du deuxième club. Moi, j'en parle moins, sauf quand Jacques Vendroux m'interroge. Mais on est en train de le bâtir et je suis persuadé qu'on ira au bout.
Invité en tous les cas des décideurs du sport là, ce soir, eh bien, c'est Pierre Ferracci, le président du Paris Football Club et surtout le président du groupe Alpha. Vous avez fait une allusion tout à l'heure, vous faites partie, mais c'est très affectif, des hauts dignitaires du football français. Vous avez un regard sur la fédération, vous avez un regard sur la Ligue de football professionnel, parce que vous êtes d'abord quelqu'un de sérieux, quelqu'un de compétent. Tout ce qui se passe actuellement à la fédération, comment vous le vivez avec toutes ces histoires par rapport à Noël Le Graët, par rapport à Florence Ardouin? C'est la Fédération française de football. Et je suis persuadé que vous avez, sur ce point-là, qui est un point un peu délicat, un peu sensible, un regard objectif. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui se passe?
Alors, c'est difficile d'avoir un regard totalement objectif quand on a aussi des amis qui sont pris à partie. Noël Le Graët, j'ai des relations très amicales avec lui. Il a été président du Paris FC au début des années 2000. Puis moi, j'entretiens, pour des raisons citoyennes aussi, des relations de qualité avec lui. On a dans le club aussi quelqu'un qui est un ami proche de Noël, qui est le vice-président de notre association, Christian Amara. C'est compliqué ce qui s'y passe. Moi, d'abord, j'ai tendance à faire confiance à Noël.
Non, mais vous êtes chef d'entreprise. C'est pour ça que je me permets de vous poser la question.
Oui, et puis j'interviens souvent sur ces problèmes de gouvernance, de conduite du changement dans les entreprises. Et c'est des choses que je n'ignore pas, qui sont délicates.
Bon, ça fait partie de votre rôle de président du groupe Alpha.
Oui, tout à fait. Alors, j'ai tendance à dire que, d'abord, je fais confiance à Noël quand il dit qu'il y a des choses qu'on lui attribue qu'il n'a pas commises. Des propos qu'il n'a pas tenus, des SMS qu'il n'a pas envoyés. Maintenant, c'est un peu délicat parce qu'il se trouve que je suis un lecteur assidu de SoFoot, qui est une revue que j'aime bien. Bon, j'espère qu'ils ne se sont pas pris les pieds dans le tapis. Il y a une enquête en cours diligentée par le ministère de tutelle. J'espère qu'on y verra clair. Moi, disons que plus fondamentalement, je crois qu'il y a dans le football français un problème de gouvernance. Alors, ça n'empêche pas Noël Le Graët et Vincent Labrune à la Ligue de faire du travail dans de bonnes conditions et avec des résultats sur certains plans qu'on reconnaît. Mais il y a un problème de gouvernance. D'abord, à la Fédération française de football, je trouve, je l'ai dit, je crois, un jour à Noël Le Graët, il y a un rôle ambigu au niveau du COMEX. On ne sait pas trop si c'est un conseil d'administration ou un comité de direction opérationnel. Et quand les choses sont floues au niveau de la gouvernance, je pense que les salariés ont quelque chose qui est plus que de l'autonomie, c'est une forme d'indépendance qui parfois échappe au conseil d'administration. Moi, je crois qu'il faudra que Noël, s'il poursuit l'aventure jusqu'au bout de son mandat, ce qu'il a déclaré récemment dans l'équipe.
Et sur Europe,
règle ce problème de gouvernance. Alors, moi, je ne vais pas rentrer dans le détail de ses relations avec ses dirigeants, sa directrice générale en particulier. Ce qui est certain, c'est que tout le monde le sait, on ne peut pas gérer une fédération si le président et le directeur général ou la directrice générale ne sont pas totalement alignés. Donc, il faut que ce problème d'alignement soit réglé. S'il n'est pas possible que l'alignement se produise, il faut qu'à un moment donné, les choses soient tranchées. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Puis après, il faudra, à mon avis, je ne suis pas membre du COMEX, mais j'y ai y a des personnes que j'aime bien à l'intérieur, y compris des présidents de clubs comme Marc Keller, par exemple, ou la directrice générale aussi de Metz, que j'aime beaucoup aussi. Et puis, Jamel Sanjak, Philippe Diallo, enfin, des gens que je côtoie. Il faut clarifier un peu ce que fait le COMEX. Ou c'est un comité de direction opérationnelle, ou c'est un conseil d'administration. Un conseil d'administration, c'est quoi ? Ça définit la stratégie, puis ça donne les moyens à une direction générale de la mettre en œuvre. Et moi, je trouve que parfois, il y a des mélanges de genres. Et je pourrais dire la même chose qu'à la LFP. Vincent Labrune fait un travail que je trouve positif depuis qu'il a pris les choses en main. Il est arrivé après un fiasco retentissant, dont je ne suis pas sûr au passage qu'on ait tiré tous les enseignements. Moi, je suis encore un peu perplexe sur ce qui s'est passé avec le scandale de Mediapro. C'est ahurissant quand même, hein, ce qui s'est passé. Nos amis italiens, eux, les avaient boutés hors de leur champ après les avoir choisis. Nous, quelques jours plus tard, on les a choisis avec un modèle économique qui était intenable et tout le monde le savait. Donc, j'espère qu'il y a eu simplement de l'incompétence. À la limite, l'incompétence est moins grave que quelque chose auquel on peut penser qui explique certaines décisions. Mais en tout cas, on n'a pas fait la clarté sur ce qui s'est passé, c'est un petit peu dommage. Mais à la Ligue aussi, je trouve qu'il devrait y avoir une clarté au niveau du conseil d'administration des modalités de décision. Moi, je suis pour un pouvoir exécutif fort, autour de Vincent Labrune aujourd'hui, autour d'Arnaud Rouget, qui sont des gens de qualité. Mais je n'ai jamais compris pourquoi on représentait les clubs du football au conseil d'administration de la Ligue. Il devrait y avoir les collèges de Ligue 1 et de Ligue 2 qui décident de désigner un des leurs, plutôt quelqu'un qui a le sens de l'intérêt général, de l'intérêt supérieur, qui n'est pas accusé de s'occuper de son club quand il est au conseil d'administration, ce qui est la suspicion qu'il peut y avoir. Et puis après, il y a les représentants des salariés, des footballeurs, il y a des personnalités qualifiées. Mais avoir autant de présidents de club dans un conseil d'administration, je trouve que c'est malsain. Et avec tout le respect que j'ai pour les présidents en question, hein, qui sont souvent des gens de qualité, mais vous n'avez pas ça en Allemagne, vous n'avez pas ça en Italie. Il y a des assemblées générales, les actionnaires de la Ligue, qui sont les clubs, jouent le rôle. Mais après, on délègue souvent à des personnalités qualifiées, venues peut-être du football d'ailleurs, ou pas du football. Il y a des anciens joueurs, il y a des anciens dirigeants. Mais là, il y a trop de dirigeants de clubs au conseil d'administration et je pense que ça nuit à son efficacité. Moi, je serais pour quelque chose de plus ramassé, faisant la place aux représentants des acteurs, les joueurs, les entraîneurs, le personnel administratif, faisant la place à des personnalités qualifiées qui apportent des choses sur le terrain de la sécurité, du développement commercial, du marketing, et puis faisant la place aux deux ligues, mais représentés par 4-5 présidents de clubs qui sont capables de porter l'intérêt général, peut-être avec une prééminence de la Liga, hein, qui est la locomotive de la Ligue 2. Et je pense que ça marcherait mieux et ça donnerait les pleins pouvoirs à une direction générale qui est là pour mettre en œuvre une stratégie qui a été définie par les principaux acteurs et dont le conseil d'administration est le relais. Mais le relais en termes de contrôle et de surveillance de la stratégie, pas en se mêlant de la direction opérationnelle. Vous voyez, moi j'ai regretté que dans l'affaire Mediapro, un certain nombre d'administrateurs autour du directeur général aient négocié. C'est pas leur rôle. C'est pas le rôle d'un administrateur de négocier. Il n'est pas à la place des dirigeants opérationnels. Donc il y a ces problèmes de gouvernance à la Fédé et à la Ligue, à mon avis, qu'il faudrait traiter autrement. Et à partir de là, je pense qu'il y aurait moins de petites vagues de temps en temps et de problèmes de mélange des genres qui polluent, à mon avis, la vie du football. Bon, après, le football se développe aussi en ce moment dans des conditions difficiles. Hein. L'environnement est compliqué. Et je crois que le football français est en retard, même s'il essaie de rattraper son retard. Vous voyez, on dit que le PSG est une locomotive. Moi, je n'ai pas de problème avec les locomotives, à condition que les wagons ne soient pas laissés à la traîne. Il faut que tout le monde joue un petit peu un rôle moteur à son niveau. Les clubs de Ligue 2 en Ligue 2, les clubs de Ligue 1 en Ligue 1, l'élite de la Ligue 1, il faut qu'elle joue un rôle moteur. Mais le PSG, qui s'est développé puissamment depuis 10 ans, depuis que les Qataris sont là, depuis un peu plus de 10 ans maintenant, ça n'a pas empêché les droits de télé, les droits audiovisuels de redescendre au niveau où ils étaient il y a 10 ans. Donc le facteur d'attractivité des locomotives, il n'est pas aussi évident que ça. Il y a un problème d'équilibre à trouver qui n'est pas encore, trouvé. Le PSG est devenu un grand club, hein, planétaire, c'est devenu une grande marque. J'espère pour lui qu'un jour il gagnera la Ligue des Champions. Mais en tout cas, le football français n'en a pas profité autant que ça. Donc il y a un problème d'équilibre. Et le problème d'équilibre, je ne suis pas très partisan, même si certains la développent, de la théorie du ruissellement. On joue à fond les locomotives et puis on pense que les wagons vont en profiter. Ce qui n'est pas le cas. Il faut que chacun ait sa place, le football amateur, les clubs de Ligue 2, les clubs de Ligue 1, le haut de la Ligue 1, encore une fois, qui a un rôle à jouer, mais pas un rôle où il accapare tous les pouvoirs, y compris dans les organes de direction, ce que certains pensent, en se disant ben, « les autres vont en profiter ». Non. Je crois que la force du football français, ça a toujours été, c'est comme ça qu'on a été champion du monde, la qualité de sa formation. Bah, la formation, qu'on le veuille ou non, c'est les centres de formation des clubs pro, en tout cas de certains d'entre eux, mais c'est aussi les centres de formation, enfin les centres, ils ne sont pas centres en tant que tels, dans le football amateur. En région parisienne, il y a plein de clubs autour du Paris FC qui font de l'excellent travail en termes de formation. Et regardez d'où sortent les Thierry Henry, ils sortent pas seulement du Paris FC. Hein, donc il faut qu'on trouve cet équilibre-là, et je trouve que Noël Le Graët, là-dessus, a fait d'ailleurs beaucoup d'efforts pour rechercher cet équilibre. Je trouve qu'il faut aller plus loin et ça n'empêchera pas de reconnaître le rôle des locomotives et le rôle du club qui abrite Neymar, Mbappé et Messi, ou le rôle de l'Olympique de Marseille, qui reste encore le club le plus populaire de France aujourd'hui, ou le rôle de l'OL, où Jean-Michel Aulas a fait de l'excellent travail, même s'il est un peu en difficulté aujourd'hui. Mais il faut qu'il y ait un meilleur équilibre et la théorie du ruissellement dans la société comme dans le football, elle a quelques limites. De temps en temps, les ruisseaux ne portent pas l'eau jusque là où il faut. Quoi.
Pierre Ferracci est l'invité de la séquence Les décideurs du sport dans l'émission présentée par Lionel Rousseau. Président, je voudrais vous poser quelques questions sur des sujets d'actualité. Noël Le Graët a dit si Didier Deschamps est demi-finaliste de la Coupe du Monde de football, et si bien sûr il est champion du monde, j'invite à déjeuner à Guingamp et il prolonge son contrat. Vous êtes d'accord? Il l'a proposé en tous les cas. Il
oui,
a dit le destin
fait, mais
de Didier Deschamps lui appartient s'il est demi-finaliste.
Écoutez, Didier Deschamps a amené l'équipe de France avec les joueurs. Hein, c'est un travail collectif à être champion du monde en 2018. S'il fait une excellente Coupe du Monde et effectivement arriver dans le dernier carré, c'est pour moi faire une bonne Coupe du Monde. On n'est pas toujours champion du monde. Hein, il y a des acteurs en face qui sont puissants. Je ne trouverais pas illégitime qu'il soit prolongé. Après, je veux dire, ne tournons pas autour du pot. Il y en a qui rêvent de voir arriver Zinedine Zidane à la tête de l'équipe de France. Mais je reconnais à Noël Le Graët et au COMEX de la Fédération le fait de constater la bonne tenue de Didier Deschamps au Qatar si on est en demi-finale. Donc c'est quelque chose qui est légitime. Mais après, ça appartient aussi à Didier. Hein. Peut-être Didier, à un moment donné, en aura un petit peu marre de l'équipe de France et se dira qu'il a fait du bon travail, qu'il faut passer à autre chose. Enfin, il y en a beaucoup qui l'accueilleront en tout cas volontiers parce que c'est quelqu'un de grande qualité. Mais oui, la proposition de Noël, de ce point de vue, est légitime. Mais elle ne plaira pas à ceux qui se disent « Bon, Didier a fait son temps maintenant ». J'en ai même entendu certains dire « Mais s'il gagne pour la deuxième fois la Coupe du Monde, ça serait bien qu'il s'en aille quand même ». Bon, ils sont bien gentils, mais enfin, s'il gagne une deuxième fois la Coupe du Monde, peut-être qu'il sera légitime pour rester, que les Français voudront qu'il reste pour en gagner une troisième pour lui et puis une quatrième pour la France plus tard. Donc voilà, ça c'est des choix, il faut qu'on trouve un peu de sérénité. Quoi. Il n'y a pas qu'une hypothèse qui est la bonne, parfois, il peut y en avoir deux. Je pense que demain, Zidane sera légitime pour prendre l'équipe de France, je pense qu'aujourd'hui, Deschamps peut être légitime pour la garder. Alors après, il faut faire des choix, et puis ça peut être des choix personnels qui ne sont pas forcément les mêmes que celui du copain d'à côté.
Le président de la République, Emmanuel Macron, a déclaré il y a quelques jours, si la France est en demi-finale, j'irai au Qatar. Vous partagez son analyse et son déplacement ?
Mais vous savez, moi je suis en règle générale, et ça c'est mon expérience dans le groupe Alpha, c'est pas parce que moi je ne vais pas aller au Qatar, je ne suis jamais partisan de la politique de la chaise vide. Quand on prend une responsabilité, la France avec d'autres nations a pris la responsabilité de choisir le Qatar comme lieu de la Coupe du Monde, bah, il faut aller jusqu'au bout. Et oui, moi je ne trouverais pas anormal que le président de la République aille voir la France en demi-finale si elle arrive dans le dernier carré. Donc c'est là que je trouve qu'il faut que les politiques, et de ce point de vue-là, je trouve qu'Emmanuel Macron, en tout cas sur ce terrain-là, a raison. Il ne faut pas qu'il soit hypocrite, quoi. Encore une fois, s'il fallait combattre cette décision, c'était en 2010 ou en 2012 qu'il fallait le faire. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, ça se passe là-bas. Ben, il faut y aller. Peut-être qu'en allant là-bas, il y a des messages qu'on fait passer aussi, hein, qui ne sont pas contradictoires avec la tenue d'une Coupe du Monde de football. Et de ce côté-là, quand on voit ce que fait Emmanuel Macron à l'étranger, parfois il fait passer des messages dans des lieux où on ne s'attend pas forcément à ce que ces messages passent. Donc oui, je trouverais ça logique qu'il aille accompagner l'équipe de France dans le dernier carré.
Dernière question, Pierre Ferracci. Je rappelle que vous êtes l'invité de notre séquence des décideurs du sport. Je vous écoute là depuis environ 25 minutes. Je vous trouve passionné. Vous n'avez pas envie un jour de passer à autre chose? Je parle de la présidence du groupe Alpha, je pense aussi à la présidence du Paris FC, et de devenir ce qu'on appelle un grand dignitaire du football, président de la Fédération, président de la Ligue. Est-ce que quelque part, ça peut vous effleurer l'esprit, très honnêtement? Ou c'est des fonctions qui ne vous intéressent pas trop?
Écoutez, dans le cadre de la gouvernance actuelle, avec ce que j'ai dit tout à l'heure, pas trop par rapport à mes projets actuels. Je suis en train de passer la main dans le groupe Alpha. J'accompagne ma directrice générale jusqu'à la fin 2024, donc dans 2 ans. Et à ce moment-là, je me retirerai de la gouvernance du groupe Alpha. Bon, dans le club, je n'ai pas fixé d'échéance, mais ça dépendra de beaucoup de choses, hein, y compris des résultats du Paris FC. Mais je cherche une solution qui, dans mon esprit, est une solution nationale et régionale, même si j'ai mis des capitaux étrangers dans le... Parce que l'image de Paris est telle que j'aurais tort de me priver de ressources qui viennent de l'étranger et que je salue, parce qu'elles portent aussi le projet du Paris FC. Mais pour l'instant, elles accompagnent un actionnariat majoritaire qui est national. Bon, vous savez, il faut un âge pour tout. Et moi, j'essaye de mettre en place la jeunesse aussi autour de moi, dans le club comme dans le groupe Alpha. J'exclus jamais totalement certaines hypothèses, mais aujourd'hui, elles sont parfaitement incompatibles avec ma présidence du Paris FC. Donc, je vais donner mon point de vue et puis je vais essayer d'accompagner. Vous savez que mon point de vue est plutôt bienveillant. Hein. Je commence par saluer ce qui se fait de bien à la LFP comme à la Fédération française, du côté de Noël comme du côté de Vincent. Puis après, je me dis qu'il y a des choses qui doivent bouger. Peut-être que je peux jouer un rôle là-dessus pour les aider à trouver une gouvernance un peu plus satisfaisante pour le football français. Il y a des enjeux en plus au niveau international. J'espère qu'on ne passera pas à une Coupe du Monde à 48, hein, et surtout qu'on n'aura pas la Super Ligue européenne que certains rêvent pour se partager un peu mieux les droits audiovisuels. Il y a une Ligue des champions qui tient la route aujourd'hui, il faut la garder comme telle, ou en tout cas l'amender légèrement. Donc pour répondre à votre question, pour l'instant ce n'est pas d'actualité, ce qui ne m'empêche pas de donner un point de vue sur l'état du football français et de le donner encore une fois avec bienveillance mais avec parfois un peu de fermeté, parce que je trouve qu'il y a des choses qui pourraient tourner bien mieux et c'est pas très difficile de faire mieux que ce qu'on fait à certains endroits, et ça améliorerait grandement l'efficacité du football français et de sa gouvernance.
Merci Pierre Ferracci d'avoir été l'invité en ce jeudi de la séquence des décideurs du sport. Bonne chance pour une montée. Enfin, moi, je souhaite de tout mon cœur que vous montiez en Ligue 1. Ça serait formidable. Moi, je le trouve.
Je le souhaite également. Merci Jacques, c'était un
plaisir.
Merci
Pierre Ferracci d'avoir été invité sur Europe 1. À très vite. Merci Lionel Rousseau.